Imaginez un enfant qu'on appelle et qui vient tout de suite. Oh là là, qui vient tout de suite. Le rêve de tous les parents. C'est pour ça qu'on aime beaucoup le texte de la première lecture qu'on appelle l'appel de Samuel. Pourtant, il est couché, c'est le soir, il est couché. Il entend « Samuel, Samuel, me voici !» Tout de suite. Vous avez entendu, ça se répète à chaque fois. « Me voici !» À chaque fois qu'on l'appelle, il vient tout de suite. Tous les parents rêvent d'un enfant aussi serviable qui accourt dès qu'on l'appelle. Et on se dit d'ailleurs que Dieu nous aime comme ça, aussi obéissant et serviable. Pourtant, en réalité, ce texte qu'on appelle l'appel de Samuel s'inscrit dans un ensemble plus large, et il s'agit moins de l'appel de Samuel que de la répudiation d'Élie, le vieux prêtre. Élie, le prêtre, avait deux fils, Ophni et Pinhas, qui étaient des voyous. Des voyous, et plus exactement pour utiliser un registre connu aujourd'hui, c'était des prédateurs sexuels. Ils couchaient avec les femmes qui étaient au service de l'Arche d'Alliance. Le temple n'avait pas été encore construit, on appelait ça la tente de la rencontre, et il y avait un certain nombre de servantes du Seigneur qui étaient là auprès de l'Arche d'Alliance, des femmes consacrées, et eux, parce que c'était les fils du prêtre, ils disaient « Allez, allez !» Des salopios. Ou, pour parler comme la Bible, une abomination. Le problème, c'est que Élie était très vieux, âgé, et son indulgence était coupable et même abominable. Il dit, oh là là, mes enfants, qu'est-ce que j'entends dire? Oh là là, elle n'est pas belle la rumeur sur ce que vous faites. Oh bon non, faut pas faire ça. C'est pas comme ça que les enfants changent. Et donc, ce texte, lorsque le Seigneur appelle le jeune Samuel, c'est pas du tout pour qu'il se mette à son service. Samuel, il est déjà auprès du prêtre, il est déjà consacré. Il a été consacré à sa naissance par sa mère, Anne. Le Seigneur appelle Samuel pour lui annoncer ce qu'il va faire. Et quand on prend la suite immédiate du texte, Samuel, Samuel, il répond, parle, ton serviteur écoute. Et que dit le Seigneur à Samuel? Il dit, voici que je vais accomplir une chose en Israël qui va faire tinter les oreilles de ceux qui vont l'apprendre. Ding, 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 ding. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sanctionner Élie. Il l'avait prévenu, mis en garde. Et très clairement, à cause de cette faute, sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas repris. Alors le texte dit que Samuel est resté couché jusqu'au petit matin. On peut imaginer qu'il n'a pas dû très bien dormir. Et surtout, il craignait de raconter ça à Élie. Au matin, Élie l'appelle, « Samuel, Samuel, mon fils !» Me voici. Et lui demanda, quelle est la parole que le Seigneur t'a adressée? Je t'en prie, ne me la cache pas. Il n'avait pas du tout envie de lui dire. Mais Élie a été si insistant qu'il a été forcé de tout lui raconter. Et Élie a dit, c'est le Seigneur qu'il fasse bon, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Ça nous semble une bonne réponse de la part d'un prêtre, qu'il fasse ce qui est bon aux yeux du Seigneur. Mais c'est une mauvaise réponse parce que lui, Élie, le prêtre, n'a pas fait ce qui était bon, ce que le Seigneur lui demandait. Il ne devait pas, il ne pouvait pas tolérer de ses enfants pareil comportement, pareilles exactions. Le prêtre Élie est comparable à un évêque qui garde en fonction des prêtres qui se comportent très mal. Le châtiment de Dieu est sévère. Alors, il y a cette tentation de Samuel de toujours vouloir rendre service. Il est plein de bonne volonté, il accourt quand on l'appelle, mais ce n'est pas ce que le Seigneur lui demande. Dieu veut d'abord qu'il écoute. Qu'il écoute et qu'il transmette ses paroles, parce que c'est ça la fonction du prophète. C'est d'avertir. Est-ce que nous devons pour autant proclamer et transmettre tout ce que nous recevons de Dieu? Je vous propose de voir cela avec l'Évangile, en revenant auparavant, entre-temps, rapidement sur l'histoire des mages que nous entendions dimanche dernier. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison les mages n'ont-ils pas laissé de traces dans leur pays? Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas écrit leur mémoire, mais ils n'ont pas laissé de traces significatives dans leur pays du voyage extraordinaire qu'ils avaient fait, de cette expérience incroyable de l'étoile et de l'enfant Jésus. Pourquoi? Eh bien, justement parce que c'était incroyable. Après la guerre, en 1945, ceux qui sont revenus de déportation n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé parce qu'ils ne pouvaient pas en parler et ils ne pouvaient pas être entendus. Quand vous vivez quelque chose d'extrêmement fort, que ce soit d'atroce ou de sublime, il y a très peu de chances que vous puissiez trouver les mots pour le dire et pour pouvoir être entendu. Il y a un mois, il y a eu un terrible accident de car à Mias. J'ai entendu le jour même à la radio le récit d'un père de famille dont l'enfant n'était pas dans le car, il suivait en vélo. Et il racontait, j'étais au travail, mon fils m'a téléphoné, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et c'est ça la merveille de la technologie. Je lui dis, envoie-moi une photo. Et quand j'ai vu, a dit le papa, je suis allé chercher mon garçon. Il y a des choses dont on ne peut pas parler. Dans l'horrible, comme dans la grandeur. L'évangile de Saint-Luc s'ouvre sur l'apparition de l'ange à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et Zacharie sort, il ne peut plus parler. Il est privé de la parole. Le texte, ou plutôt l'ange, dit « Tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Comprenez bien que ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas une privation qui serait mesquine et indigne de Dieu. C'est la suite logique de son manque de foi qui le rend incapable d'en parler correctement, de pouvoir témoigner. Il en va de même de ce qu'on appelle le secret messianique. Vous savez, quand Jésus interdit à certaines personnes de raconter les miracles qu'il fait. Et jusqu'à ses propres apôtres, après la transfiguration, Jésus défendit à ses disciples de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. En réalité, ce n'est pas avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts, c'est avant le jour de Pâques, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit qui rend capable de parler de Dieu. C'est la seule explication que j'ai trouvée au fait que, dans nos discussions, en particulier avec un prêtre comme moi, on me parle presque exclusivement de l'Église, c'est-à-dire de l'institution ecclésiale, et très peu de Dieu. Je suis toujours sidéré que nos discussions soi-disant religieuses portent presque exclusivement sur les faiblesses humaines, mais pas sur la grandeur de Dieu. Voilà ce dont nous devrions parler, la grandeur de Dieu. Et l'histoire de Jean-Baptiste est à cet égard très significative. Il est la voix qui crie dans le désert. Lui dont les parents ont été plongés dans le silence jusqu'à sa naissance. Son père, Zacharie, à cause de la vision. Sa mère, Élisabeth, une fois enceinte, pendant 5 mois, elle a gardé le secret. Son silence, un silence volontaire à la différence de celui de Zacharie, son silence volontaire était certes motivé par une certaine méfiance vu tout ce qu'elle avait enduré de la part des autres, mais surtout il y avait ce besoin profondément spirituel de vivre cela dans son cœur, en cœur à cœur avec le Seigneur. Et il faudra la visite de Marie, la visitation, pour qu'elle soit remplie de l'Esprit Saint, pour qu'elle puisse partager avec quelqu'un qui comprenne, c'est-à-dire avec Marie, elle puisse partager avec elle cette joie, avant que cette joie n'éclate au grand jour, au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait donc été à bonne école avec ses parents, et pourtant ça ne suffit pas, l'Évangile dit qu'il est allé vivre au désert, ensuite jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. C'est à ce moment-là que nous le retrouvons dans l'Évangile, nous le retrouvons fidèle à lui-même, puisqu'il montre Jésus à deux de ses disciples, voici l'agneau de Dieu. C'est exactement comme quand il était dans le ventre de sa mère, dans le ventre d'Élisabeth. C'est lui qui montre Jésus. Et la réaction des disciples est magnifique. Ils suivent Jésus. Et nous sont alors données les deux indications qui doivent guider notre année et en fait notre vie chrétienne. Il y a d'abord la nécessité d'une expérience personnelle. Je peux vous dire beaucoup de choses sur Dieu. Beaucoup d'autres personnes peuvent vous dire encore mieux des choses très spirituelles, profondes, théologiques, beaucoup de choses sur Dieu. Mais vous ne ferez jamais l'économie d'une expérience personnelle, d'une démarche personnelle. Venez, vous verrez. Venez voir, c'est ça en français. Venez voir. Je pense souvent à celui qui est devenu le cardinal Lustiger, le jeune Jean-Marie Aron, adolescent, totalement étranger à l'Église. Je crois que c'était un jeudi saint, il entre dans la cathédrale d'Orléans. Qui lui a dit, quelle est la voix qu'il a entendue, qui lui a dit, viens voir. Pourquoi est-il entré? Combien de fois ai-je eu envie de dire à mes amis, tous mes amis qui sont si loin, de leur dire, allez, venez voir. Je l'ai souvent dit, beaucoup sont venus, ils ne se sont pas convertis. Pourquoi? Je pense que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez convertis nous-mêmes. Nous n'avons pas suivi, c'est justement ça la deuxième indication. La deuxième indication du texte, ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. La première étape qui consiste à aller voir est inséparable de la deuxième qui consiste à écouter, à rester là, à écouter autant de temps qu'il faudra. Au matin de Pâques, Marie-Madeleine, qui a trouvé le tombeau vide, va chercher les disciples. « Venez voir !» Ils arrivent en courant. Ils voient quoi? Ils voient la réalisation de la promesse. Ils voient l'accomplissement de la prophétie. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. La deuxième lecture de ce dimanche, d'un texte où saint Paul rappelle la dignité de notre corps. La dignité de notre corps qui est le moyen indispensable pour nous, qui est notre capacité d'entrer en communication les uns avec les autres et également avec Dieu. C'est un moyen divin de communication, notre corps. Mais cette communication dépend de la place que nous laissons à l'Esprit Saint. Le même saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, évoque les visions et révélations qu'il a reçues du Seigneur. Il en parle à la troisième personne, il dit « Je sais qu'un homme, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps, était-ce hors de son corps, je ne sais pas. Je sais que cet homme-là a été emporté au paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. » Il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Venez voir et prenons le temps d'écouter.